Un vrai problème. Le problème, c'est que pendant 2000 ans, on a rêvé Jérusalem. On a rêvé Jérusalem au rythme des prophètes, au rythme des histoires, au rythme des choses qu'on nous avait racontées. Et le problème, c'est que quand on est arrivé à Jérusalem, il fallait faire en sorte de transformer les histoires en réalité. Il y a plein de gens qui ont été très très choqués parce que, quoi, à Jérusalem, on nous a dit qu'il y avait des rivières de lait qui coulaient, des murs en or et tout. Puis on est arrivé, il y avait de la poussière. Et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on traduit ce qu'on vit aujourd'hui en termes prophétiques de ce qu'on nous a promis pendant 2000 ans? Alors les amis, on va y aller. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Et d'abord, je commence en disant la chose suivante. Qu'est-ce qui a sauvé les Juifs en tant qu'individus, toi et moi et toi, pendant 2000 ans d'exil? Qu'est-ce qui nous a sauvés en tant qu'individus?
L'espoir.
Alors en tant qu'individu, c'est le Torah Omnibus. C'est-à-dire, pendant l'exil, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. La preuve, c'est que vous êtes incapable de me donner plus de deux noms de juifs entre les années 200 de l'ère chrétienne et 1800, qui n'étaient pas rabbins. Essayez de me trouver des mecs qui ont deux noms de juifs qui ont traversé l'histoire. Shabbatai Tzvi, allez, je l'accepte même si,
ouais, même si
au, début, que... voilà, au début, il était rabbin avant de partir en Israël. Ça, c'est après 1800. J'ai dit 200-1800.
Il y avait un Michel.
Il y avait un Michel.
Einstein.
Qui?
Newton.
Einstein, c'est après.
Ah oui,
Newton, il n'est pas juif.
Ah, Rothschild,
il s'appelle Isaac.
Rothschild.
Rothschild, c'est après 1800.
Non, il y avait la famille avant.
Benjamin de
Christophe Colomb.
Alors, Binyamin Mitoudela, mais c'est Ra. Son nom en hébreu, c'est Rabbi Binyamin Mitoudela.
Christophe Colomb, c'est
pas. Christophe Colomb n'est pas juif.
Il y en a qui
disent que
oui,
on va pas
dans les débats.
Les kits sont. Viens, on va arrêter le massacre. Non, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu aurais pu me citer par exemple un homme politique du XVIe siècle qui s'appelait Don Yosef Nassi. Il était le duc de Naxos, c'était le premier ministre de l'Empire Ottoman. Un beau gosse. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que Begadol, pendant l'exil, un juif, c'est un rabbin en ce qui tourne autour. Pourquoi? Parce que si tu as lâché ton Rav Mitzvot, en deux minutes, tu es assimilé. Ça, c'est vrai au niveau individuel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est resté pendant 2000 ans un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Ça veut dire que vous êtes bien conscient qu'au niveau de la halakha, de la pratique du judaïsme, c'est fondamentalement différent si on est ashkénaze, séfarade, polonais, marocain. C'est une autre religion, antimate. Ma femme, elle a grandi en Angleterre. Le temps qu'elle revienne en Israël à 17 ans, elle n'avait jamais vu un séfarade de sa vie. Jamais. Bon, elle avait entendu des légendes, tu vois, par terre et tout, elle est rentrée en Israël, elle m'a dit, j'étais choqué, j'ai vu qu'ils avaient même des rabbins. Maintenant, Bémet, il y a une pratique différente. Je raconte toujours cette histoire quand je guide à Auschwitz, qu'en 44, la déportation des juifs de Hongrie commence, et à ce moment-là, il y a un convoi qui arrive, en fin novembre, et les chambres à gaz, elles ne marchent pas. Elles ont un problème technique. Donc, au lieu de les envoyer tous à la chambre à gaz, on les met dans des baraquements. Et il y a un groupe qui arrive dans un baraquement qui est habité à moitié par des juifs de Salonique, de Grèce, des Sfaradim. Et le convoi, il arrive dimanche soir. Maintenant, le lundi, ils ne se parlent pas, les mecs. Le mardi non plus, le mercredi non plus, ils ont tous peur les uns des autres. Parce que les juifs de Grèce, pour eux, c'est quoi un juif? Un juif, c'est un mec bronzé, une moustache, qui parle avec les mains. C'est ça, un juif. Et il voit tout d'un coup des mecs arriver qui sont blancs, qui n'ont pas le sens de l'humour et qui parlent yiddish. Enfin, yiddish, en allemand. Pour un mec qui ne comprend pas, yiddish, ça reste de l'allemand. Donc ils se disent, c'est des nazis, c'est des nazis de confession juive, certainement. Et pour les Hongrois, c'est pareil. Pour eux, un juif, c'est un mec qui parle yiddish, qui n'a pas le sens de l'humour, qui est blanc de peau. Et ils voient un mec qui est bronzé, qui a une moustache, qui parle avec les mains. Ils disent, oh, c'est des juifs. Et il va falloir attendre vendredi soir pour qu'ils entendent d'un côté et de l'autre du baraquement les chadodis, avec des airs différents. Mais ils vont se rendre compte que c'est les chadodis quand même. Ils vont tomber dans les bras les uns des autres, et le lendemain, Shabbat matin, ils vont partir à la chambre à gaz tous ensemble. Le Rav Lao, il disait, dans la Shoah, on a appris à mourir ensemble. Le défi de l'après-Shoah, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous a maintenus ensemble pendant ces 2000 ans, alors qu'on faisait différemment? C'est les Shana Abba Birushana. C'est le fait qu'il y avait cet espoir d'une Jérusalem qui nous appartient à tous. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on n'a pas beaucoup de temps, donc quand vous êtes établi d'être Ramim, on va aller rapidement. C'est-à-dire, il y a une Gemara dans la Masechet Brachot, une Gemara Yedoua, mais qui est très, très particulière. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'ai pas besoin de faire son CV, Tota, c'est le Nassi à Sanhedrin à l'époque du Khourban. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, tombe malade, ses élèves rentrent chez lui pour le visiter, et à ce moment-là, quand il les voit arriver, il se met à pleurer. Et les élèves disent, tout ça c'est la source numéro 1. C'est-à-dire, ils disent, Rabbeinu miknelma taboche. Pourquoi tu pleures? Et Rabbi Chaim Zakkai, il dit une réponse terrible. Il dit, parce que je vais mourir. Veshte drachim lefanai. Ve'eini yodea le'an ani olech. Il y a deux chemins devant moi, je ne sais pas où je vais. Gan Eden ou Gehinnom. On parle de qui?
Rabban
Yochanan ben Zakkai. Et les Talmidim, ils sont en flip. Évidemment, ils te disent, attends, comment ça? Toi, tu sais pas où tu vas. Attends, si toi, tu sais pas où tu vas, nous, on est mal barrés. Et ben, ta Sheila, elle est comme ça. Rabban Yochanan ben Zakkai, il sait pas où il va. Vous pouvez comprendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Arrivé Manachar. Si Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait que des mitzvot et il est tzadik, à où il va?
Gan Eden.
Et s'il pense qu'il a fait une avéra kolchei, qu'est-ce qu'il lui reste à faire alors? Il n'a qu'à faire tchouva, et puis c'est tout, après le tzadar. Mais on voit qu'il est en stress, Rabbi Yochanan ben Zakkai. L'âme. Il semblerait que toute sa vie, il a été hanté par quelque chose qu'il a fait, et il ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il ne sait pas si ce qu'il a fait l'amène au Gan Eden ou l'amène au Gehinnom.
Il n'y a qu'à faire tchouva, donc.
Oui, bah non, tu ne peux pas. Parce que si tu fais tchouva sur un truc bien que tu as fait, c'est ketoé à la rishonot. Tu remets en cause les choses bien que tu as fait. Donc il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui le met dans une telle situation terrible? Eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai, les amis, il a vendu Jérusalem. Il a donné Jérusalem. À qui? Aux Romains. On est à la fin de la guerre contre les Romains, moment du Khorban. Les Romains font le siège de Jérusalem. Vespasien, Aspasianus, c'est lui qui est le patron là-bas. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai fait semblant de se faire passer pour mort, pour pouvoir sortir de la ville et se faire enterrer dehors. Ses élèves, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, le sortent de la ville. Et là, pouf, devant le camp romain, il sort du cercueil. Salut, c'est moi. Alors là, César, enfin, Vespasien, il dit, oh, ouais, mec, comment tu fais? Tu peux le refaire? Et là, il lui dit, Rabbi Chaim Zakkai, il vient le voir, il lui dit, Ata César. Alors qu'il n'est pas César, il est que général. Il dit, c'est toi César. Il dit, oh, qu'est-ce que tu racontes? Au même moment, il y a un cavalier qui arrive de Rome, qui lui dit, César est mort, t'as été élu César au Sénat, c'est toi César, faut que tu rentres. Alors là, Vespasien, il dit, écoute, alors là, tu m'as éclaté. Et donc, il lui dit, écoute, tu m'as fait kiffer, demande-moi ce que tu veux. Trois vœux. Allez, c'est le génie. Tu fais trois vœux, m'en fous. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, il demande trois choses. Il dit d'abord, Tenli Yavne Vechachamea. La ville de Yavne, ne la détruis pas et laisse tous les Chachamim aller là-bas pour que la Torah elle continue. Ensuite, Rabbi Tzadok, ça fait 40 ans qu'il jeûne pour la situation à Jérusalem, il est très malade, donne-nous un bon médecin. Et trois, ne détruis pas la dynastie du Nassi HaSanhedrin, qui nous rattache à David Amer. Voilà ce qu'il demande. Et il reçoit. Mais qu'est-ce qu'il ne demande pas?
Jérusalem.
Pourquoi il demande de faire Rabbi Tzadok
Rabbi Tzadok, il va pas bien.
Oui,
ça
mais
peut être un
c'est devant César.
Il a dit, je veux y avoir
quelque chose plus général.
Comment ça? Rabbi Tzadok, c'est pas important?
Non, c'est important, mais si je n'attends, c'est pour le klal. Et lui, il est en train de détruire le klal pour faire...
Non, alors Zéo, c'est vidéo caché là, c'est vidéo caché là. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il détruit le clan ou est-ce qu'il comprend que de mal à saute? Peut-être qu'il s'est dit que si je demande à Jérusalem, il allait me dire non. Tu sais, il a dit, tu demandes de te il te dira oui. De te il te dit, tu diras non. Et Bémet, entre nous, on ne fait pas de la géopolitique de l'époque, mais les Romains, ils n'ont pas débouté 4 légions, c'est-à-dire près de 100 000 hommes. Ils font 4 ans la guerre et ils font le siège de Jérusalem et machin pour finalement dire bon, les gars, c'était une blague, recommencez pas. Kanyarek, il a compris que Jérusalem c'était mort, qu'il allait quand même détruire Jérusalem. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva, il dit à propos de ce qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai, Meshiv Chachamim Achor Vetaatam Isakelu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ramène les Chachamim en arrière, il faudrait détruire cette pensée-là. Donc Rabbi Akiva, il n'est pas content. Bon, Rabbi Akiva, on sait que c'est un fan de Jérusalem. Ça a l'air. Rabban Yochanan ben Zakkai, donc, il a donné Jérusalem. Le problème, c'est que dans l'Agmara que je vous ai amené ici, à la fin de l'Agmara, regardez. Béchat Petirato, à la dernière ligne, ok, l'avant-dernière ligne au côté gauche. Béchat Petirato, à Marlène, quand il sentait qu'il allait mourir, il a donné dernières instructions à ses élèves. Il a dit Panou Kelim Ipna Touma, sortez tous les ustensiles de la maison à cause de Toumat Oel qui va avoir parce que je vais mourir. Et après, il dit un truc bizarre. Vechinu Kise, le Chiskiyahu Melech Yehuda Sheba. Et prépare une chaise parce qu'il y a Chiskiyahu Melech Yehuda qui vient me chercher. Et ça, c'est très particulier. Chiskiyahu Melech Yehuda, ça fait 700 ans qu'il est mort. Lui, va d'ailleurs au Gan Eden. Mais quel rapport entre Rabban Yochanan ben Zakkai et Chizkiyahu? Le rapport, il est que les deux étaient dans la même situation, mais que les deux ont réagi à four. Rabban Yochanan ben Zakkai, on vient de dire, il a donné Jérusalem. Dans la source numéro 2, Agmara Masechet Sanhedrin nous raconte l'histoire de Chizkiyahu. Que lui aussi, La ville était assiégée par un autre ennemi qui s'appelait Ashur. Et Sanhérib, Melech Ashur, il voulait détruire Jérusalem. Il avait déjà détruit toute la ville autour. Et Chizkiyahou a dit, non, moi je ne donne pas Jérusalem. Seulement à l'époque, il y avait un mec dans la ville qui voulait donner Jérusalem. Il s'appelait Shevna Asopher. Et Shevna, ce n'est pas un petit joueur. Vous connaissez un peu la Torah. La Gemara nous dit, là, dans ce que je vous ai amené, que Chizkiyahou, le roi, il était tzadik, et quand il faisait un shiur de Torah, il y avait 110 000 personnes au shiur.
C'est un bon début.
Certaines. Mais Shevna, quand il donnait un shiur, il y avait 130 000 personnes. Encore plus fort. Et Shevna, il a envoyé une flèche au-dessus de la muraille, chez les Assyriens, avec un message en disant, écoute, c'est juste Chizkiyahou qui ne veut pas te donner la ville, mais moi, avec mes copains, on veut te donner la ville. Et Chizkiyahou prie Dieu, il dit, non, mais vas-y, c'est moi qui ai raison, il ne faut pas te donner la ville. Non, non. Au final, Dieu, il prend... Fais tes causes pour Chizkiyahou. La ville est sauvée. Il vient, Dieu, il tue 185 000 soldats de l'armée assyrienne et Jérusalem est sauvée. On voit deux personnes qui sont assiégées, qui font face à la chute de Jérusalem ou pas, et les deux réagissent à four. Et pourtant, les deux sont assis ensemble au Gan Eden. Semble-t-il que les deux ont bien agi. Alors, Isa nous dit que les tzadikim, ils arrivent à voir à côté de qui ils sont assis au Gan Eden. Le Baal Shem Tov, il raconte ça, il y a plein d'histoires du Baal Shem Tov, on lui dit à côté de qui tu vas être assis. Mais Kitsour, il semblerait que Rabbi Yochanan ben Zakkai et Chizkiyahou, qui ont fait deux choses complètement opposées pour Jérusalem, l'un a donné, l'un a gardé de toutes ses forces, ont tous les deux raison, mais la seule chose qui change, c'est quoi? C'est le contexte. C'est dans quelle époque tu vis. Et là, c'est ce qui va m'amener dans la source numéro 3. Dans la Torah, dans le livre de Dvarim, on nous dit, quand t'as une tchéla de Halakha, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Lequel? Lequel?
Rav
Malko Soufir. Rav Malko Soufir. Donc, même si tu n'habites pas à Jérusalem, même si tu n'es pas au Mornir, il peut y avoir d'autres Malko Soufir dans la ville, ou dans d'autres villes.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, c'est vrai, tu as raison. Nous dit la Torah, Uvata el Akohanim el Leviim ve el Ashofet, Asher Yeh bayamim ahem, ve darashta ve gidu lecha et devar hamishpat. T'as une shéla, tu vas voir les rabbinim. Akol tseder. Seulement la Torah nous dit, Asher Yeh bayamim ahem. Le rabbin qui sera à cette époque-là, Rashi, au cas où on n'aurait pas compris, nous dit, ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו. Ça, même s'il n'est pas aussi bon que Malko, disons que dans 200 ans, il y a un mec qui a une Sheila. Je ne sais pas si Malko il pourra lui répondre. Donc, il te dit même si...
Il est capable, Malko.
Hein?
Il est capable. Hein?
Ouais, je sais que... mais même si Rabbi Malko, il est plus là, dans 200 ans, et que tu as des rabbins, bon, c'est pas le même niveau, tu vois, mais bon, c'est des Mayesh. Alors, il te dit, même s'ils ne sont pas aussi bons qu'ils étaient avant, אתה צריך לשמוע לו, אין לך שופט, אין לך אלא סליחה שופט שבידך. Tu n'as que ce que tu as. Et j'ai envie de te dire, Rashi, תודה רבה. כאילו, ça me paraît évident. La Torah me dit, tu dois aller vers le juge qui est en son temps. Et Rashi te dit, tu n'as que ce que tu as devant toi. Oui, ben je sais bien. C'est-à-dire, est-ce que ça viendrait à l'esprit d'aller poser une question à un chauffette qui n'est pas né? À un raf qui n'est pas encore né? Non. Est-ce que ça vient à l'esprit de poser une question à un rabbin qui est déjà mort?
Non, mais tu peux pas.
Peut-être qu'ils sont pas d'accord entre celui qui est décédé et Stam. Rabbi Yosef, il sort un psak. Ouais. Aujourd'hui, un autre rabbin.
Si Rabbi Yosef, il sort un psak aujourd'hui.
Mm-hmm. Non, il a sorti un psak à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un autre rabbin chez Posek Machoacher. Est-ce qu'il faut mieux écouter le psak du rabbin d'aujourd'hui?
Bah, évidemment.
Ah oui, mais c'est ça. Mais...
C'est-à-dire, tu peux. Est-ce qu'on est Posek la halakha en fonction de gens qui sont morts déjà? C'est-à-dire, tous les sifrés halakha, il faut bien comprendre une chose. Les sifrés halakha. Bon, je fais une digression, je ne sais pas si on aura le temps de faire, mais il faut bien comprendre une chose. On n'est pas posek halakha par des livres. Jamais de la vie, chas ve chalila. Les livres sont là pour aider. Mais comment est-ce qu'on est posek halakha? Comment est-ce qu'on connaît la halakha? On ouvre un livre?
Non.
Non, on va voir le rav. Le rav, il est posek halakha. Maintenant, le rav, il connaît les livres, et donc peut-être qu'il va te dire, écoute, j'ai pas le temps de te répondre, mais regarde dans Yehaveda, du Rav Ovadia, chapitre 1, c'est ça qu'il faut suivre. Alors là, tu peux aller suivre selon le livre, parce que le Rav, qui te connaît, qui est vivant, il a dit, ça, va là-bas. Mais Barour, qu'on va pas, comme ça, j'ai une question, je vais ouvrir un livre et j'ai la réponse. Le livre que tu as chez toi dans la bibliothèque, il est là pour quoi? Il est là pour t'aider au cas où c'est Shabbat, t'as une chérie là et tu peux pas poser la question au Rav, il est pas là et t'as pas de téléphone. Alors ça, il vaut mieux que tu suives le livre, parce que t'as moins de chances de te tromper. Mais on n'est pas posek halakha avec des livres. Le livre, il est arrêté au moment où il a été écrit. Or, la situation dans laquelle toi, tu te trouves, peut-être qu'il y a des variantes par rapport au psak qui a été dans le livre. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de dire que s'il y a une marloquette entre le même posek, entre, par exemple, le Rambam, entre le Mishneh Torah et les Shoutim du Rambam, et les Shevot ou Tshuvot du Rambam, sur le même sujet, on est posé comme les Shoutim. Parce que la question-réponse, elle est beaucoup plus précise que le grand cas général du Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est un cas général. Mais chaque question de la halakha est particulière. Donc, barour que ça viendrait à l'esprit de personne, si j'ai une question, d'aller voir un rabbin qui est déjà mort. D'accord ? Ça n'existe pas, ça, un truc comme ça. Les rabbinim, on va voir ceux qui sont vivants. Donc, qu'est-ce que Rashi m'a ajouté ? Eh bien, ici, il faut bien comprendre Rashi. Tu dois aller voir un rabbin qui est en ton temps. Ça veut dire quoi ? Dans la mesure où c'est évident qu'on parle d'un rabbin vivant, mais c'est pas ça que Rashi veut nous dire, parmi les rabbins qui sont vivants, il y en a qui sont en ton temps, et il y en a qui ne sont pas en ton temps. C'est-à-dire, il y a des rabbinim qui comprennent dans quelle époque ils vivent, et il y a des rabbinim qui ne comprennent pas dans quelle époque ils vivent. Vous comprenez la différence ? Ouais. Il y a des rabbinim qui vivent encore en Pologne il y a 300 ans, et leur façon de l'ifsok est à... Elle est toujours comme en Pologne il y a 300 ans. Et donc Rashi te dit, tu dois aller voir un juge qui est en ton temps. Bon, mais c'est quoi ? Et regardez ce que nous dit toujours la Torah, dans le livre de Dvarim. Tzedek tzedek tirdof, leman tirye veharashta et haaretz, Asher Hashem Elohecha noten lach. C'est quoi tzedek tzedek tirdof ? Pas de parme Rashi. Alach achar bet din yafé. Faut quand tu vois la tainche là, tu dois aller voir un bet din yafé. Un bet din bogos. C'est quoi un bet din bogos ? Kedai ou minu yadayanim akshirim leachayot et Israël ou leoshiva maladmatam. C'est quoi un bet din yafé ? C'est un bet din qui est capable dans sa psyka de réunir deux choses. Un, la survie du peuple juif. Et deux, le fait que le peuple juif puisse vivre en Israël. Pendant 2000 ans, on n'a pas eu le choix. Le Beddin disait de survivre et donc des fois de ne pas monter en Israël. Mais un Beddin y a fait, c'est quelqu'un qui est capable de faire les deux. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des époques où ce n'est pas possible. Il y a des époques où c'est possible. Est-ce que vous connaissez une époque où c'est possible ?
Non.
Pas aujourd'hui, par contre. Donc ça veut dire que quand tu as une Sheila Be'alacha aujourd'hui, il faut aller voir un rabbin qui y a fait. C'est-à-dire qui comprend dans quelle époque il vit. Oui ?
Comment ça se fait que les rabbins ne vivent pas dans la époque ?
Comment ça se fait qu'il y a des rabbins qui... Parce qu'ils sont nostalgiques. Ils pensent que c'était mieux avant.
Ils se rendent pas compte.
Qu'anira. Ou alors peut-être que Bémet, ils pensent que c'était mieux avant. Mais après, c'est une marque locale de savoir est-ce que avant c'était mieux ou maintenant c'est mieux. Il y a des gens qui te disent qu'avant c'était beaucoup mieux. C'est le même style de dire vaut mieux rester en France parce qu'en Israël, c'est dangereux, tu peux te déjudaïser. Alors, c'est toujours facile de regarder ma petite communauté dans le 19e arrondissement de Paris où j'avais bien mon petit collège, j'avais mon petit rabbin de communauté. J'étais bien, et maintenant j'arrive en Israël, il y a trop de... Je sais même pas où donner de la tête, j'ai pas de rabbin officiel, machin, là. C'était mieux avant. Non, mais c'était mieux avant. Ou c'était toi, personnellement, dans ton truc, machin. Mais de manière générale, pour le peuple juif, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant ? Et donc, la question, elle est de savoir où est-ce que je me place. Il y a des rabbins qui sont très nostalgiques, ça veut pas dire qu'ils ont rien. C'est vrai ? Voilà, ça. Moi, je viens de Metz. Alors, moi, il faut faire l'alia, mais. Ah, ouais. Donc, qu'on irait que c'était mieux avant. Chas
Bechalila.
Voilà. Oui.
Sur quoi ils se basent les rabbins d'aujourd'hui ? Parce que sinon, on peut vite tomber dans le réformiste. On peut dire, ouais, moi,
évidemment.
Je suis dans mon temps. Moi, je suis dans mon temps, les rabbins.
Évidemment, comment est-ce qu'on sait si t'as raison ou pas ? Bon, dis donc. T'as des mécorotes, t'as des sources, t'as des gomarotes.
C'est-à-dire qu'ils se basent sur un truc quand même.
Toujours, toujours. De toute façon, toutes les déotes, toutes les idées dans la halakha, elles sont légitimes à partir du moment où on peut les étudier au Bétamidrash. Même celui qui n'a pas raison. Il y a, je sais pas si tu connais, il y a un concept dans la Gemara qui s'appelle Tzadik ve Tovlo ve Tzadik ve Ralo. Moshe Rabbeinu, il a posé la question à Dieu, il a dit pourquoi il y a des Tzadikim ve Tovlo ve Tzadik ve Ralo. Alors, la Gemara, elle donne sa réponse. La réponse de Rabbi Nachman Breslov, elle est géniale. Il dit c'est quoi Tzadik ve Tovlo ? Il dit c'est Tzadik ve Halakha Kmoto. C'est Tovlo. C'est un Tzadik et son avis, c'est la Halakha. Alors, il est content. Tzadik verra l'or, c'est un tzadik. Alors son avis, c'est pas celui qui a été retenu dans la halakha. Oh, il est pas content. Verra l'or. C'est vrai, donc c'est des tzadikim les gens dont on parle. Mais des fois, la halakha, elle est pas contente. C'est vrai ? Achab, donc ça veut dire que... Oui.
Et que dire au rabbin qui pense que comme la Torah est éternelle, c'est-à-dire que la halakha est immuable.
Il y a personne qui dit ça. Il y a personne qui dit ça parce que c'est la daïlo nachon. La halakha, elle est immuable. Ça veut rien dire, elle est immuable. Par exemple, est-ce que j'ai le droit. Utiliser un téléphone Shabbat.
Non.
Non.
C'est des rabbins.
Tu sais que là tu as utilisé ton téléphone. Ah, parce que c'est pas Shabbat. Donc ça veut dire que les cas est différent en fonction des situations. Donc la halakha n'est jamais immuable parce que chaque cas est différent. C'est pour ça que tu vois qu'entre la halakha de la Gemara et la halakha des Achronim, il y a plein de choses qui ont évolué. On est toujours avec les mêmes bases, les mêmes critères qui nous permettent d'étudier la Torah. Mais je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais je pense, honnêtement, que mon cher Rabbeinu ne savait pas comment cacher les amicons pour faire ça. Pas parce qu'il n'est pas bon en Ilkhot Kashrout, parce qu'il n'est pas bon en Ilkhot Mikond. C'est-à-dire ? Donc il est évident que la halakha, elle évolue. Agave, c'est ça qui lui donne sa condition éternelle. Parce que justement, elle n'est pas figée à un moment. Ça va pas ? Non, il est évident que pour que ça soit halakha, il faut que ce soit quelque chose qui suive la massorette rabbinique, la tradition rabbinique depuis Moshe jusqu'au jour. Ok ? Mais Kitsour, tout ça pour dire que savoir dans quelle époque on vit, est-ce qu'on est dans une époque de construction ou dans une époque de destruction ? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait compris qu'on était dans une époque de destruction. Et donc, dans une époque de destruction, bah, il faut sauver les meubles. Et c'est ce qu'il a fait en demandant ces trois choses à Vespasianus, à Vespasien. Et c'est ce qui a permis de sauver le peuple juif. Parce qu'Yahou Melech Yehuda, il comprenait qu'à son époque, c'était une époque de construction. Et donc, malgré les risques, il faut tout faire pour garder Jérusalem. Nous, on a rêvé Jérusalem pendant 2000 ans. Aujourd'hui, bon, Hachem, on est dans une génération de construction, masée construction, tous les embouteillages le prouvent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant construit à Jérusalem qu'aujourd'hui. Ça a l'air. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on comprend dans quelle époque on vit ? Et en quoi c'est tellement important ? Pourquoi c'est tellement important d'avoir Jérusalem ? Ça, c'est une grande chose, là. Eh bien, c'est fondamentalement important d'avoir Jérusalem parce que Jérusalem est la clé de notre relation avec Dieu. Pourquoi la clé ? Il y a trois choses dans le monde qui m'empêchent d'être lié à Dieu vraiment. La première, c'est le temps. Eh oui, Dieu, il est intemporel. Dieu, il est intemporel. Mais moi, je suis figé dans le temps. Et ça, c'est un problème. Donc, il faudrait, pour pouvoir véritablement me lier à Dieu, que j'annule cette barrière temporelle. C'est bon, le judaïsme, il a un truc pour annuler la barrière temporelle, ça s'appelle la tchouva. La tchouva, c'est fait comment ? Il y a trois étapes pour la tchouva, d'accord ? Charata, regretter, donc c'est-à-dire revenir en arrière. Vidouille, c'est au présent, je dis ce que j'ai fait. Et kabbalah la'atid, je dis, je ne vais plus le refaire, c'est au futur. En gros, la tchouva, c'est une machine à remonter dans le temps, dans les deux sens. Donc ça me permet d'enlever la barrière temporelle. Il y a un autre problème, c'est que Dieu, il n'est pas limité. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas tout le monde. Et Dieu, il parle à tout le monde. Comment je fais pour me retrouver dans le corps de tout le monde ? Je ne peux pas. En général, je suis tout seul dans ma tête. Moi, non, mais les gens normaux, ils sont tout seuls dans leur tête. Et donc, comment on fait pour arranger le truc ? Eh bien, on a un truc qui s'appelle le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, bien moi qui pourrir, le Corban qui va faire, c'est pas pour lui. C'est pour qui ? Kol Israël. Vous allez me dire, ouais, on n'a plus de Kohen Gadol. Nachon, on n'a plus de Kohen Gadol. Mais on a des tzadikim qui sont à Israël, qui ressentent et qui vivent un Israël en entier. Ah, par exemple, vous avez vu un tzadik comme ça qui vient de sortir juste avant qu'on commence le cours.
C'est pas d'accord entre eux.
Qui ?
Tous ces tzadikim.
Ah, vous avez le salaire. Ouais, justement parce qu'ils ressentent tout.
Le Kohen Gadol est d'accord avec lui, alors ça va.
Ah, il est d'accord avec lui-même ?
Ouais.
Je suis pas sûr. Faut voir. Mais Dom Chané, les tzadikim au final, ils sont tous d'accord sur un Israël. Après, c'est normal qu'ils aient des différentes opinions. Agave, tu sais que le Kohen Gadol, le premier, c'est qui ? Aaron, tu savais qu'il n'était pas d'accord ?
Moshe. C'est pas un problème.
Mais Moshe aussi, il éclate Israël.
Oui, mais c'est deux tafkits différents.
Non, Moshe, mais dans leur osmose du peuple juif, ils sont pas d'accord. Ils ont deux façons différentes de s'osmoser avec le peuple juif. C'est Bessader. Donc ça veut dire que le tzadik qu'on a aujourd'hui, à Kol Bessader, le Rajan, il vient de sortir à Kol Bessader. Maintenant, on a une dernière barrière qui est un vrai problème. C'est quoi ? L'espace. Dieu, il est partout. Sauf que moi, quand je suis là, je suis pas là-bas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on peut régler ici à Jérusalem. C'est ce qui est marqué dans la source numéro 7. Dans la source numéro 7, c'est la Mishnah dans Maseret Avot qui nous dit que Asara Nissim Ayub Bet Hamikdash. Vous connaissez ? Il y avait 10 miracles au Bet Hamikdash. Maintenant, celui qui m'intéresse ici, et comme il faut qu'on aille vite, celui qui m'intéresse, c'est le dernier. Le dernier miracle qu'il y avait au Bet Hamikdash, voilà, les deux derniers. On me dit, Omdim Tsefufim. C'est quoi ? C'est quand on était au Beth Amikdash, tout le monde, Pessah, Shavuot, tu sais. Quand on était debout au Har HaBayit, tous les bénis Israël, il n'y avait plus de place. C'était genre à Kafot Shniot, à Merkaz Arab. Tu n'as pas de place. C'est comme tout à l'heure dans les Rukout Galim. Tu n'as pas de place. Mais quand c'était le moment de s'allonger par terre en mode prosternation à la folie, tout le monde avait de la place pépère. Comment c'est possible ? Nous, Ness. Et l'oddness, qui va le plus m'intéresser ici, c'est que le olam lo amar Adam le chavero tsar li amakom shealim Yerushalayim. personne n'a jamais dit j'ai pas où dormir à Jérusalem. Pour guider un petit peu des groupes et tout et m'occuper de réservation d'hôtels en été, ça n'existe pas aujourd'hui ça. Il y a très souvent les hôtels te disent non on n'est pas. Ça a l'air. Mais là il te dit miracle. Jamais il y a un mec qui a dit j'ai pas de place à Jérusalem. Il semblerait que Jérusalem permet d'avoir de la place.
Donc c'est la petite Jérusalem.
En plus, c'était pas la Jérusalem d'aujourd'hui, Vadaï. Maintenant, ça va encore plus loin dans la source numéro 8. Dans Agmara Masoret Megillah, on nous dit que le top du top de ce fait qu'il n'y a pas de problème de place, ça se passe au Beit HaMikdash dans le Kodesh HaKodashim. Combien il mesurait le Kodesh HaKodashim en long ?
20
quoi ? 20 amotes, 10 mètres à peu près. C'est-à-dire, selon on nous dit dans Agmara, d'un côté du Haron jusqu'au mur,
10.
De l'autre côté du Haron jusqu'au mur,
10.
Alors que le Haron était combien ?
2,5.
Bon. Et donc Agmara nous dit, Masoreti beyadeno, chez Aaron et Inominamida, Benessa Yaron. C'est-à-dire que tu vois que Jérusalem, il n'y a pas là-bas le problème de place. Ce qui fait que si tu es à Jérusalem, tu as enlevé la dernière barrière qui t'empêchait d'être lié à Dieu. En d'autres termes, si tu es à Jérusalem, plus rien ne t'empêche à être véritablement lié à Dieu à 100%. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est fondamental d'être à Jérusalem. Bon, alors maintenant que je suis relié à Dieu, ça y est, j'ai plus de barrière. À quoi c'est d'ailleurs ? Le problème, c'est que tout le monde n'est pas à Jérusalem. Tout le monde n'est pas à Jérusalem, et donc il faut ancrer dans la connaissance de chacun que sans Jérusalem, il te manque un truc dans ton lien à Dieu.
Il faudrait que tout le monde soit à Jérusalem ?
Non, tu peux pas être tout le monde à Jérusalem. Tout le monde... Mais donc, comme tu peux pas, il faut quand même que les gens soient conscients, même quand t'es pas à Jérusalem. C'est quoi ton rapport avec Jérusalem ? Alors, c'est qui les gens qui sont pas à Jérusalem ? C'est-à-dire, ils sont où ?
Ils sont
Toi tu dis roule, toi tu dis Tel Aviv.
Non, c'est
pas pareil.
Ils sont nus,
ceux qui sont pas rattachés.
Ceux qui sont à Ranana, à Jod, à Tel Aviv, ou ceux qui sont à Paris, et ainsi de suite.
Ils sont dans
d'autres tribus. Ça, je sais pas concrètement. Aujourd'hui, ils sont pas à Jérusalem. Dans les pas à Jérusalem, t'as les mecs de Tel Aviv et t'as les mecs de Paris. C'est deux styles complètement différents. Parce que tu ne peux pas de Paris te lier à Jérusalem. Pas possible, trop loin. Le wifi il est pas bon. C'est ce que dit Agmara ici, dans la Masoret Brachot, encore une fois. On dit Aya Omed Bechoul. Donc Bechoul c'est Paris. Où est-ce que je me tourne pour faire la tefila ? Vers ? Et non pas ? Pas Jérusalem. On ne se rend pas vers Jérusalem. Il faut passer par Israël. C'est-à-dire tu ne peux pas de Bechoul arriver à la Madriga de Jérusalem. Donc Aya Omed Bechoul, Yechaven, Eretz Israël. Donc tu peux te tourner vers Elat, c'est-à-dire. Aya Omed Be'eretz Israël, donc à Tel Aviv, à Elat, à Ashdod, Yechavel, Yerushalayim. C'est-à-dire qu'au final, il faut que tout le monde soit Mechouvanim à Jérusalem. Et quand tu es à Jérusalem, alors tu as encore d'autres façons de te lier, vers le Rabbaï, quand tu es au Rabbaï, vers le Makom Mizbeach, le Makom Mizbeach, le Kodesh HaKodashim. Et quand tu es au Kodesh HaKodashim, tu es bon, tu es en Wi-Fi, tu peux faire ce que tu veux, et, comme ça. Mais ça veut dire que l'essentiel du judaïsme, c'est que tout le monde comprenne qu'il faut se tourner vers Jérusalem. Agave, c'est ce que reproche Rabbi Yehuda Alevi dans Sefer HaKuzari, le grand reproche qu'il a face au christianisme et à l'islam. C'est quoi votre... Si vous deviez faire un reproche à ces religions, c'est quoi ?
C'est pas la bonne.
Ouais, pourquoi ? En quoi c'est pas la bonne ?
En quoi c'est pas la bonne ?
Parce que quoi ?
Il y a qu'un
émet.
Non,
c'est extrémiste religieux. Toi, tu dis c'est Avodah Zara.
Surtout pour les chrétiens.
Voilà, c'est pas surtout, c'est pour les chrétiens. L'islam, c'est pas Avodah Zara.
C'est pas Avodah Zara, mais.
Donc ça marche pas ton argument. À la limite, ton argument il a enlevé le christianisme, il a pas enlevé l'islam.
C'est les deux, ils ont pris une idée d'Israël, ils ont poussé à l'extrême, ils se revendiquent comme.
Ah, tu dis ils sont extrémistes.
Non, mais c'est après qu'ils se revendiquent comme les nouveaux Israël en fait.
Ah, toi, tu dis ils veulent être le nouveau Israël, ça c'est vrai pour les chrétiens.
Même pour. Enfin,
pas non, les musulmans ils disent pas que t'es le nouveau, ils pas le nouveau Israël, ils disent que toi t'es pas le vrai Israël.
Ouais, voilà.
C'est pas qu'ils veulent te remplacer.
Les chrétiens, oui, ils disent.
Eux ils disent que Michal, t'as menti toi. C'est-à-dire que le musulman il dit que t'as falsifié le Tanakh. Que le vrai Tanakh c'est le Coran.
C'est
vrai. Toi t'as slamitonné. C'est vrai. C'est pas pareil que le christianisme qui dit le Tanakh il est vrai, mais vous avez fauté, maintenant on vous remplace. C'est vrai ? C'est un petit peu.
C'est une idée de remplacement quoi, dans les deux.
Non, pour le musulman, il n'y a pas de remplacement. C'est, t'as jamais été là, toi. Mm-hmm. C'est encore différent. Mais vous avez raison, hein. Ouais.
Le Bensa, j'ai voir quand même. C'est pas dans le milieu, quoi.
Et toi, t'es dans le milieu ?
Bah, selon le milieu du Rambam, on est dans le milieu.
Ouais, si on suit le Rambam.
Et puis les deux ont décidé un maître, un
un bonhomme qui va décider de ce qui se passe.
Zénaphone.
Alors que nous, il y a eu Moshe, mais bon, il y avait des Moshe d'aujourd'hui.
Mais nous, on prie Dieu. On ne se trompe pas.
Non, mais Moshe, comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau de la
Torah, on a avancé les musulmans, mais pour les musulmans, Mahomet, il n'est pas Dieu.
Il est pas, non, oui, mais ce qu'il a dit, c'est
ça. Ah, tu dis ça, alors on n'est pas sûr que ce soit Emmet. Tout ce que vous dites est vrai, mais Rabbi Yehuda Halevi, il a un autre problème. Le problème de Rabbi Yehuda Halevi, il est beaucoup plus simple. Il dit, dans le sens numéro 9, il dit Emlo Yodim et Kivu Natfi.
Voilà.
Ils ne savent pas vers où prier.
Oui, ils vont vers un mec et eux, ils
alors, c'est bien qu'il n'y a rien. Les chrétiens, ils se tournent vers où pour prier?
Vers eux-mêmes.
Ça, c'est
non.
Le Vatican.
Non. Toutes les églises du monde, elles sont tournées vers l'Est.
Vers l'Est?
Ouais, vers l'Est.
Pourquoi?
Non, nous, on ne se tourne pas vers l'Est.
Non, mais les églises du monde restent.
Si, les églises du monde sont tournées vers l'Est.
Même en Asie?
Ouais,
ah, c'est le soleil.
Même à l'Est de l'Israël. Parce que c'est pas, ils ne sont pas tournés vers l'Est parce que à l'Est, c'est Jérusalem. C'est parce que, je te rappelle que le christianisme, à la base, il s'est quand même vendu dans des peuples idolâtres. Et tous les temples d'idolâtrie, ils étaient tournés vers l'Est parce que c'était là où le soleil se levait. Ok? Et partout, dans toutes les cultures mythologiques, il y avait un culte du soleil. Donc, en général, comment ça s'est créé les premières églises? Il y avait un temple idolâtre avec une statue du dieu, on a enlevé la statue, on a mis une croix, boum, c'était devenu une église. C'est-à-dire, donc, ils sont vers l'Est. Les musulmans, bien que dans le Coran, au début, Mahomet se tourne vers Jérusalem, mais quand il a été éclaté par les juifs de Médine qui lui ont dit « tu connais rien », alors il a changé le Kivu Natfila. Ok? Il a changé et maintenant on se tourne vers la Mecque et donc on monte notre Tuches vers Jérusalem.
Notre
Tuches vers Jérusalem. Mais alors, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas le Kivu Natfila, il a un problème. Vous savez, j'ai dit un mot yiddish, vous êtes...
Non, mais je n'ai pas compris.
Hein? Je te traduis.
Non,
c'est pas... Bekitsur, El Malasot, si tu connais pas le Kivun, t'as un bug dans ta relation avec Dieu. Et c'est donc pour ça que c'est fondamental que nous, on se rende vers Jérusalem. Parce que si on est... Oui.
Ça veut dire que si par exemple les musulmans ils avaient gardé le bon Kivun pour Jérusalem, ils auraient...
Semble-t-il que s'ils se tournent encore vers Jérusalem, Yesh Tikva. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils savent que c'est à Jérusalem que le Emet se trouve. Et donc après, il va falloir qu'on discute avec eux pour leur expliquer pourquoi ils ont eu tort.
Même s'ils ne prient pas vers Jérusalem, leur façon des chrétiens et des musulmans ne jouent pas entre guillemets, par rapport à Jérusalem, pour nous l'enlever ou pour le prendre pour eux-mêmes, ça ne montre pas qu'ils sont quand même tournés vers...
Oui, mais ils se battent pas pour prendre Jérusalem. À aucun moment, c'était Jérusalem qui était en cause. Quand les chrétiens ils ont fait les croisades et ils ont venu se battre à Jérusalem, c'était pas pour Jérusalem, c'était pour libérer le tombeau de notre ami. Mmh. Les musulmans, quand ils ont conquis Jérusalem, c'est parce que c'était important, c'est parce qu'ils ont conquis partout. Ah, et qu'il se trouve qu'il y avait Jérusalem aussi.
Mmh. Aujourd'hui, ils se battent pour Al-Aqsa.
Oui, mais aujourd'hui c'est de la politique.
Mais ils se tournent.
Quoi, ils se tournent?
Ils prient dans
vers la Mecque aujourd'hui.
Ils donnent dos à...
Ils donnent dos à Jérusalem. Tu comprends? C'est-à-dire que Al-Aqsa, à la base...
Non, c'est sur le mont du temple, mais ils tournent dos au mont du temple.
Voilà, ils tournent vers la Mecque.
Bien sûr.
D'accord? Maintenant, tu me dis Al-Aqsa, on se bat aujourd'hui pour Al-Aqsa, mais tu sais... Al-Aqsa?
Al-Aqsa?
Ouais. Al-Barab?
La Sainte?
Vous venez de France. Non, ça veut pas dire la Sainte, justement. Ça, c'est Al-Quds.
Ah oui, ouais.
Mais Al-Aqsa, ça veut dire l'éloigné. La lointaine.
Parce qu'elle est loin de la Mecque.
Ah oui. C'est pas super central comme appellation. Tu sais, le calife Omar, quand il vient conquérir Jérusalem, et qu'il construit le dôme doré, tout ça, machin. Moi, je m'attends, si c'est tellement important Jérusalem, je m'attends qu'il écrive dans son journal la conquête de Jérusalem. Agave, il a écrit tout un chapitre sur la conquête de Hébron, où il a parlé d'Abraham, de Jérusalem, il écrit pas une ligne. Il y en a qui s'en fout. C'est politique maintenant, Jérusalem. Bekitso, celui qui ne connaît pas, et qui vous n'êtes fila, Zébaïa, parce que notre rapport avec Jérusalem, c'est ça qui nous permet, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir une vraie relation avec Dieu.
La halakha, hein, si on n'arrive pas à savoir Kivoun, il vaut mieux prier sans avoir Kivoun que de pas prier.
C'est si tu sais pas.
Oui,
donc qu'est-ce que tu fais?
Plus important,
qu'est-ce que tu fais si tu sais pas?
Tu penses à Jérusalem.
Où tu pries?
Vers où tu veux.
Non.
Je vais trouver.
Yechaven libo lemkom kodesh kodesh kodeshim. Donc c'est où Jérusalem? Ça, tu sais pas où t'es, machin, mais Yechaven libo. Quand t'es dans l'avion. Et où tu te tournes? Jérusalem. J'imagine.
Vers Israël, donc. Hein? J'ai dans l'avion vers Israël, donc.
Ah, tu dis, généralement t'es dans l'avion vers Israël. C'est Yofi. Généralement t'es dans l'avion vers Israël.
T'as
tous les mecs qui prennent l'avion, généralement c'est
Israël. C'est bon, c'est bon.
C'est dans le sens.
C'est gratifié, genre.
Et sur la vie, il est influencé parce qu'on a gagné l'Eurovision et tout machin. On a gagné l'Eurovision ce soir.
C'est
certainement une bonne nouvelle, je sais pas pourquoi.
On ne représente pas le peuple juif dans sa grandeur.
C'est ça. C'est ça. Cagnéré que Dieu a des chemins qui nous échappent. Bekitsour. Bekitsour. Cette relation de base avec Jérusalem, elle est mentionnée dans le début de la Torah. Il faut même pas aller chercher très loin. Il y a marqué dans la Torah un verset, je ne sais pas si vous connaissez, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Prends, ce verset. Qu'est-ce que Rashi dit sur ce verset? Premier Rashi de la Torah.
Premier Rashi de la Torah?
Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Non, il dit Rashi que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, elle aurait dû commencer par Chodesh HaZelachem, première mitzvah. Pourquoi ça commence par Bereshit?
Pas qu'on puisse te dire, vous êtes voleurs.
Ouais, mais t'as oublié la première ligne.
C'est Bereshit, pour Bereshit.
Ouais, ouais, mais qu'est-ce que dit Rashi? Mishum koach maasa vigid le'amo la tête de la nachal goyim. Parce que c'est en usant de notre force qu'on va pouvoir retourner chez nous. Mishum koach maasa, la force des actions de Dieu, il a voulu la donner en héritage à ses enfants. Jérusalem, c'est pas un truc qu'on reçoit sur un plateau d'argent. C'est un truc que le peuple juif s'est battu pour avoir. Et finalement, on est revenu. Et finalement, donc, on a fait tomber toutes les barrières. Le fait qu'on ait fait tomber toutes les barrières nous permet à Jérusalem de réaliser le dernier truc qui nous manquait. Le dernier truc qui nous manquait, c'est le propre de Jérusalem. Jusqu'à présent, on a dit qu'est-ce qui nous rattache en espoir à Jérusalem. Lorsqu'on est ici, il y a le dernier truc qui arrive. Le dernier truc, c'est quoi? C'est que Jérusalem a un truc spécial, c'est qu'on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Ben, d'après la halakha, regardez ce qu'il y a marqué ici dans la source numéro je ne sais plus combien, la source numéro 16, juste deux secondes. Et on est à la source numéro 16, que Yerushalayim, Ezra, non, non, je ne l'ai pas mis là, où je l'ai mis? Donc, l'homme chané. Ah si, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Yerushalayim abnuya ke ir shechubra la yachdav, ir shei osa kol Yisrael lechaverim. C'est-à-dire quoi ça? Que tout le monde est chaverim à Jérusalem. Il y a une halakha à l'époque du Beit HaMikdash, que le peuple juif il est divisé entre chaverim et amei haaretzot. Chaverim, ceux qui savent la Torah. Et à Meharatzot, ceux qui ne savent pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ils ne vont pas faire bien Troumot au Maasrot parce qu'ils ne savent pas. Et donc, d'après la halakha, je n'ai pas le droit d'aller manger chez un mec qui ne fait pas Troumot au Maasrot parce que peut-être qu'il n'a pas fait comme il faut. Mais à Jérusalem, on me dit, on ne pose pas de questions.
Pour les Chagim.
Oui, quand les gens ils arrivent pour les Chagim. Mais même Stam, tu viens en visite à Jérusalem, à Jéru, tu ne poses pas de questions.
Il n'y a que des gens comme ça.
Non, tu ne peux pas savoir. Vrai. Jérusalem, tout le monde est Chavali.
Non, mais Rav, il n'y a pas de
questions. Peut-être pas, je ne sais pas.
T'as pas le droit d'aller
manger n'importe où aujourd'hui. T'as pas le droit. Là, on parle de Troumot HaMaasrot. On parle pas de mecs qui ne connaissent pas les Chod Bassar Bechala. Qu'annirait qu'à l'époque, pas mélanger le poisson, le ravioli et la viande, tout le monde savait. Mais Troumot HaMaasrot, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai? Oui.
Ah, mais il y a un duo dans la phrase, c'est voilà, que si par exemple le mec il a ouvert une boîte d'olives, je crois, pendant la fête, et puis après la fête, est-ce que tu auras la manger ou un truc comme ça?
Bah bon, parce que après la fête, tu dis, il n'y a plus cette osmose de tout le monde ensemble. Donc le diou qui revient, bah, c'est Jérusalem, mais il manque les gens. Il semblerait que quand tout le monde est ensemble, pourquoi la halakha te dit que quand tout le monde est ensemble, t'as le droit de yala, on y va. Kilumakara, il semblerait qu'il se passe un truc à Jérusalem. Ce truc, il est que Jérusalem, à l'origine, appartient à qui? Appartient à qui? Appartient à Dieu, évidemment, ça c'est un joker, c'est pas facile. Appartient à tout le monde. Jérusalem a été acheté par qui?
Tout le
peuple juif, je parle tout le monde dans chez nous. Ça appartient pas à un mec particulier. C'est vrai qu'au niveau de la Nahala, au niveau des tribus, des héritages, c'est à Binyamin. Seulement, Jérusalem a été conquis par le roi David. Seulement, il y a un endroit où que David n'a pas conquis qu'il a
acheté.
C'est quoi?
Arabite.
Et combien il a acheté?
400
voix. Savram.
C'est
Marc Loquet.
Marc Loquet.
Ah oui, il y en a dit 50, il y en a dit 600.
Vous savez, dans la source numéro 15 et dans la source numéro 14, dans la source numéro 15, c'est Shmuel qui dit que David il a acheté 50 shekels. Alors que dans Divrei Hayamim, il y a marqué qu'il a acheté 600 shekels. Nachon. On dit Agmara parce qu'en fait, chaque tribu a donné 50 shekels. En d'autres termes, qui a acheté Jérusalem?
Tout le monde.
C'est ça qui donne la particularité à Jérusalem. Alors à Bretagne, tout ça, c'est la raison pour laquelle on se bat à Jérusalem. Arrête de me faire des signes.
Non, mais j'ai une question.
Ah, tu as une question? Question d'abord.
Pourquoi aujourd'hui, d'accord, fêter le Yerushalayim, on ne fait pas le Yerushalayim quand on est revenu de Babel?
Quand on est revenu de Babel?
Quand on est parti en exil, Babel. On est revenu à Jérusalem, la fois.
Ouais.
Et tout ce qu'ils avaient recommencé, construire, etc., etc. Ouais. Mais on ne fait pas du tout ça.
Ben non, on va dire qu'on ne fait pas. Parce qu'on était encore soumis aux Perses. C'est-à-dire qu'on était à Jérusalem, mais on était complètement soumis aux Perses. Donc c'était, on était là sans être les patrons ici. C'est-à-dire que dans notre génération, il y a eu l'inverse. Il y a eu d'abord Atzmaout, et ensuite Madriga Jérusalem. Alors que Beit Sheni, tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire qu'on était là, mais on était soumis. Hanouka, là, on est devenu. On était là partout. Non.
On ne fait pas la rentrée de Jérusalem du peuple juif à la sortie d'Égypte. On ne fait que maintenant, il y a au chalet.
Non, pas du tout. En fait, le moment où David il a conquis Jérusalem.
Quand?
Ah, c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça.
Donc ça marche.
Ouais, ça marche.
Ouais.
Pour en devenir, on a la tigva de revenir à Jérusalem. Ouais. Ouais. On est revenu, on a encore un peu la tigva de revenir pour Arabaït. Enfin, ouais. On est revenu, mais de faire le Betamigdash, etc. Une fois qu'on aura ça, c'est quoi le...
Alors attends, justement, c'est quoi l'idée? Rabotai, tout ce qu'on a dit, c'est que pendant 2000 ans, cette notion de Jérusalem, on a compris maintenant qu'est-ce que c'était. Jérusalem nous permet de faire tomber la barrière qui nous permet d'être lié à Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Jérusalem, c'est le centre névralgique du peuple juif, parce que ça appartient à tout le monde, et c'est là que tout le monde est véritablement relié à Dieu chez nous. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça... Quel est l'intérêt qu'on vienne ici? Les amis, Jérusalem est tellement au centre de tout qu'on ne se rend pas compte que Jérusalem est au centre de prophéties qui se sont déjà réalisées. Nous, quand on parle des névoites, très souvent on se dit les névoites c'est pour bientôt. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des prophéties qui sont déjà réalisées. Par exemple, dans la source numéro 17, Zechariah Navi nous a parlé d'un truc qui s'est déjà réalisé. Bon, les trois parties de la prophétie, la troisième pas encore, mais les deuxièmes parties sont réalisées. Regardez. Va'asafti et kol ha'goyim et l'ushalaim la milchama. Il y aura un temps où tous les goyim vont venir faire la guerre à Jérusalem. Venil keda'ir, la ville va être assiégée. Venachasu abatim, les maisons seront bombardées. Ve'anashim tishachavna, et les femmes seront malheureusement. Voilà. Ve'yatsa chatsi ha'ir bagola, et la moitié de la ville va être exilée. Ve'yeter ha'am lo yikaret minahir, mais le reste du peuple ne sera pas effacé de la ville. Vous avez réalisé quand ça? Mot pour mot? 1948. Bidou, 1948, la guerre de 48, c'est exactement ce qui s'est passé. Seulement, maintenant il y a une deuxième partie. Ve'yatsa Hashem, ve'nilcham bagoyim mehem kayom ilachamo beyom krav. Ah bon? Ve'amdu raglav be'ar hazitim, asher al pene Yerushalayim mikedem. C'est-à-dire que Dieu va venir faire la guerre à ces goyim-là, et ses pieds vont passer par le mont des Oliviers pour libérer Jérusalem. Ça, c'est réalisé quand?
Six jours.
Par la guerre des six jours. Mmh. Comment je sais que Radlé Hachem, c'est Tzahal?
Parce que le Rambam dit.
Pas que Rambam, le Gamar Abouranel, il dit clairement que quand il y a marqué Radlé Hachem, c'est les moyens qu'il utilise par l'intermédiaire du peuple juif. Donc Tzahal, passé par le Har HaZetim, et a libéré Jérusalem. Bon, la troisième partie, elle ne s'est pas encore réalisée, donc là tout à l'heure, vous partez en Tihoul, faites gaffe.
Est-ce qu'on peut l'expliquer là?
Oui, je vais te dire maintenant. Il y a marqué Venifka Razetim Mechetio Mizracha Vayama, Gei Gedola Meod, Umash Chetzi Har Tzafona, Vechetio Negba. C'est-à-dire que le Har Razetim va s'ouvrir en deux. Voilà, gros tremblement de terre, ouverture en deux, gros trou au milieu pour laisser passer le fleuve. Donc si jamais tu te balades, enfin tout à l'heure vous allez vous balader sur Har Razetim, si vous sentez que ça commence à bouger, faites gaffe.
Non, c'est qu'il creuse, c'est un gros.
Allez, bah,
il y a un truc là-bas. Il creuse,
c'est à prendre au sens propre du terme. Oui, oui, c'est à lire au sens propre du terme. C'est.
Enfin, bah,
c'est...
Je n'en sais rien. On verra.
Ouais, on verra.
Vous allez où, j'ai dit l'homme chané, comment ça va se réaliser? C'est-à-dire, maintenant, Rabotai, c'est tout ça qu'on prend comme fête aujourd'hui à Yom Yerushalayim. C'est tout ce retour-là qui est la fête de Yom Yerushalayim. Agave, nous, on fête ça. Mais vous savez qu'avant 67, il y avait déjà une famille qui fêtait Yom Yerushalayim avant.
Les gains de vin.
Non. Le Rav Kook. Regardez, c'est marqué dans la source 18. Baruch Hashem, avar alenu yom etmol kafret iyar, ze hayom agadol asher bo zachinu tzur Yisrael baruch hu, lavo l'eretz chemdatenu velirot beinenu techilat tzmichat keren nish'o le'am kodcho. Rav Kook est arrivé en Israël, kafret beiyar. Donc il fêtait. Mais pourquoi il est arrivé Kafret Beiyar? Qu'est-ce qu'il trouvait d'important à Kafret Beiyar? Mais parce qu'il y avait déjà des gens en Israël qui fêtaient Kafret Beiyar 400 ans avant le Rav Kook. Pourquoi? Non. C'était des Mekoubalim, mais pourquoi ils fêtaient? Parce que c'était le Yortzeit, la Imbula, le Shmuel HaNavi. Lama Shmuel HaNavi, le Navi de la Malchoute, a décidé de mourir Kafret Beiyar. C'est pourquoi Dieu a décidé de le rappeler Kafret Beiyar.
Décidé.
Shmuel, c'est le prophète de la royauté par excellence. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois où le peuple juif a réussi quelque chose en tant qu'entité de peuple, de Malchut, c'était Kafret Beiyar. C'est-à-dire, c'était la première guerre d'Israël. La première guerre d'Israël qu'on ait jamais fait, c'est quand?
Aïe.
Non. bien avant. Mechamet Amalek. Hein. Mechamet Amalek, quand on sort d'Égypte, d'après les versets de la Torah, c'est Kafret Beïar.
Comment
c'est ? Bah, tu lis, c'est marqué. On a les dates des événements, donc tu t'as plus qu'à compter et tu arrives à Kafret Beïar.
Il n'y a pas une autre date comme ça qui nous dit quand est-ce qu'on sauve les
Mishdash,
comme ça c'est plus simple.
Ah, c'est plus simple. Mais attends, moi je vais encore plus loin. 2020. Mais alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait en sorte que ce jour-là dans la création du monde, ce jour-là dans la création du monde, dans les Sfirot, c'est quel jour ? On fait Sfirat HaOmer en ce moment, d'accord ? C'est Chesed,
Sheba Malkout.
C'est-à-dire que commence aujourd'hui la dimension de Malkout dans le monde. Alors vous comprenez que ça peut pas être un message qui doit rester interne au peuple juif. C'est un message, d'abord, qu'il faut être très grand pour le dévoiler. Le Rav Laon, il vous a peut-être déjà parlé de celui qui était son rocher Shiva quand il est... Enfin, le Rav Meir Yehuda Getz. Vous savez, il y a un Gemara, ici, je vous ai mis dans Taanit, qui dit « Amar Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, lo avo b'Yerushalayim shel mala, ad she'avo l'Yerushalayim shel mata. » Tant que Israël ne rentre pas dans la Jérusalem d'en bas, Dieu ne rentre pas dans la Jérusalem d'en haut. C'est quoi la Jérusalem d'en bas ? C'est les Pekakim, c'est la Rakevet, c'est Ben Yehuda, c'est la Jérusalem d'en bas. C'est même le Beth Amikdash, quand on va le construire, ça sera Jérusalem d'en bas. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut ? Eh bien, un jour, on a posé cette question au Rav Getz. Vous savez ce qu'il a répondu ? Le déglingo. Il a dit Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des Neshamot. Avec pas n'importe quel Neshamot, les Neshamot les plus élevés, les Neshamot de la prophétie, que Dieu a arrêté de distribuer à la destruction du premier temple. Et donc, il a promis que tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas, lui ne recommencerait pas à rentrer dans la Jérusalem d'en haut. En d'autres termes, toute personne qui est née après la guerre des six jours a reçu une Neshama qui dépasse de très très loin nos parents et nos grands-parents.
C'est pas sûr, toi.
C'est sûr.
Un sac.
Dommage, hein, ça y est, on commence à les donner.
Bah, c'est pas dans les
ah, tu dis pas, c'est que toi t'as pas reçu. Tof, je voulais pas te mettre la pression à toi, mais toi tu as pas reçu. Non.
Même ceux qui sont pas dans l'Israël, tu devrais déjà.
Même ceux qui sont pas dans l'Israël. Un cher mec, ce que ça veut dire. On le comprend dans les faits. Aujourd'hui, on étudie des textes qu'il y a 50 ans, 60 ans, la personne qui comprenait. Le Rav Kook. Aujourd'hui, tu étudies le Rav Kook ici en Khomeir. À son époque, il y avait 2 mecs et demi qui comprenaient ce qu'il disait. Et aujourd'hui, bon, prochain, tout le monde comprend. Parce que des fois, il dit des choses, ça nous paraît évident même. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de recevoir une grande Neshama ? Là, les amis, c'est par là que je termine. Avoir une grande Neshama et une grande prise de conscience de ce que c'est notre rapport avec Jérusalem, c'est pour qu'on ait un message à qui ?
Au
monde entier. Et quand on a un véritable message au monde entier, pas forcément par l'Eurovision, mais plus peut-être par ce qui va se passer demain, ça c'est Gam, Fashoub Meol.
Non,
c'est demain, ouais.
Non, ça se passe demain.
Ah bah, ça, c'est
le Guatemala aussi. Guatemala.
Ouais, mais c'est, on va dire que c'est important le Guatemala. C'est très chaud. Mais.
Il faut reconnaître,
faut
jamais
un
pays.
Ouais, non, non, je reconnais. Mais. Les amis, à ce moment-là, peut-être. Je termine par là, les amis. Peut-être que demain va se réaliser une prophétie. Parce que je vous ai dit, le fait d'avoir une grande Neshama permet d'avoir un véritable message au monde. Ce qui permet au monde de se dire, bah, les gars, ça vaut peut-être le coup de venir à Jérusalem.
Quelle
prophétie ? Bah, je vais te dire,
c'est
ce qui nous permet d'avoir une telle influence pour arriver à ce que les nations du monde prennent conscience de notre rapport avec Jérusalem. Il y a un verset des prophètes que nous, on connaît très bien, mais on a oublié son contexte. On le connaît parce qu'il y a plein de chansons avec ces versets-là et qu'il est marqué dans plein de synagogues. Kim Itzion, Hashem Yerushalayim. Seulement, on a oublié le contexte. Vous savez qui a dit cette phrase ? Alors, c'est vrai que c'est le prophète Ishayahu, mais il met qui en scène ? Bien, regardez, je voulais amener le verset par là pour terminer. Ve'alchu amim rabim. Vous savez de qui on parle ? Oui. Ve'amerum. Lechu. Ve'na'ale ala Hashem. Venez, on monte l'ambassade à Jérusalem. Elle est pas l'ambassade. Top. Venez, on va sur la montagne de Dieu. El Beit Elohe Yaakov. Dans la maison du Dieu de Yaakov. Yaakov, c'est notre appellation quand on était en exil. C'est comme ça que le Goy nous a connus. Veyorenu Miderachav. Qui va nous enseigner ses chemins ? Yaakov va nous enseigner les chemins de Dieu. Venelcha Beochotav. Et donc, on pourra aller dans ses directions. Kimitzion, etc. Qui dit ça ? Les goyim. Et donc, qui c'est ? Bezrat Hashem Injaloua. Chez eux.
Ça ne vient pas, frère.
Peut-être que. Et alors ?
Non, il vient pas.
Il vient pas, il a piscine, mais.
Message vidéo.
Hein ?
Il fait un message vidéo.
Il a un message vidéo, et puis il y a quand même sa fille, et son gendre.
Je ne sais pas si ça passe.
Quoi ?
Ils ne sont pas cousins comme eux, ils sont juifs.
D'accord, mais il y aura sûrement des autres gens qui seront là et qui ne sont pas juifs.
Bah, il y a le Pompeo là.
Mais gros délégation du.
Pompeo.
Ouais. Peut-être lui il va réaliser la prophétie.
Okay.
Pompeo. À ce moment-là, peut-être que Trump il va le dire dans son message vidéo. Voilà. Tu sais pas.
Bah, s'il le dit, on est bon quoi.
S'il le dit, franchement, on est bon. Mais ça d'après Ishaïa, à mon avis, ça va arriver. Ça va arriver. Que Be'ezrat Hashem va se lever un jour les nations. Et vous dire, je suis parti dans cette version-là. Mais il dira, venez, on monte à Jérusalem, et on va apprendre du peuple juif comment se lier à Dieu.
Il aura un accent
anglais. De toute façon, c'est marqué comme ça dans Ishaïa, où il est marqué, Ve'amru.